Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette, qui vous accompagne au cours des prochaines minutes. C'est bon pour la santé à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, notre 30 minutes consacrées à un grand sujet, un sujet d'actualité important, essentiel. Il faut l'aborder, les commotions cérébrales, qui, selon l'estimation des chercheurs canadiens, surviendraient entre 200 000 et 300 000 fois au pays annuellement. C'est énorme. Et bon, qui sont les victimes? Les jeunes, tout d'abord, et sans surprise, les sportifs. Pas étonnant lorsque l'on sait qu'environ 20 % de toutes les commotions cérébrales surviennent dans la pratique d'une activité sportive. Et c'est peut-être pour cette raison, du moins c'est mon impression, que j'ai l'impression qu'en grande partie, ce sont les sportifs professionnels, notamment des hockeyeurs, des footballeurs, qui, dans les dernières années, ont parlé des commotions cérébrales, c'est-à-dire des impacts sur leur quotidien, sur leur santé. Et ça, ça a permis qu'on s'y intéresse et que ça devienne un problème de santé publique sur lequel il faut se rassembler, c'est-à-dire autant les chercheurs que les spécialistes de la santé et les milieux sportifs, pour s'interroger, amener des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. Et je pense que ça nous concerne, nous aussi, c'est-à-dire nous, le grand public, à se poser des questions, à réfléchir. Et pour ça, ben, d'abord, il faut comprendre. Aujourd'hui, pour nous aider à le faire, à comprendre les impacts des commotions cérébrales, Christian Duval, il est professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, chercheur au centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal. Également Dave Ellenberg, il est neuropsychologue clinicien, professeur au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Il a écrit aussi un bouquin sur le sujet et ils sont là en studio. On a cette chance. On leur parle à l'instant. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Christian
bonjour.
Duval, Dave Ellenberg. Christian, deuxième participation pour vous à l'émission « C'est bon pour la santé ». J'ai envie de discuter, commotion cérébrale et au départ de ce chiffre qui, moi, qui ne m'y connais pas, me semblait étrange. On dit entre 200 000 et 300 000, il y a un 100 000 d'écart. Mm-hmm. Dave, vous avez déjà dit que c'était une épidémie silencieuse, les commotions cérébrales. Est-ce que c'est justement ce que l'on ne sait pas qui fait qu'il y a un si grand écart entre 200 000 et 300 000?
C'est un chiffre qui est assez difficile à estimer. La plupart des chiffres qui nous proviennent là, sur les traumas crâniens légers ou commotions cérébrales vont des cas qui sont admis dans les urgences à l'hôpital. Malheureusement, ça, c'est un pourcentage très petit de la réalité. La plupart des cas, ce sont des jeunes, des enfants, des adolescents, des adultes qui, lors d'un match de hockey, de football, de soccer, ont un coup à la tête, ils tombent, ils sont sonnés, sont bien sonnés, et ils se relèvent, sont un peu désorientés, étourdis, confus, et souvent ils retournent au jeu ou ils retournent sur les bancs pendant quelques minutes et sans rien dire à personne. La vie continue, mais par contre, les conséquences, les séquelles des commotions cérébrales vont se manifester. Donc oui, il y a un flou qui, par contre, on peut voir les équipes qui vont bénéficier d'une bonne gestion des commotions cérébrales, d'un protocole de gestion des acteurs qui peuvent identifier, détecter, retirer les jeunes jeux. Là, on peut avoir un estimé là, du taux beaucoup plus réaliste. Donc, en général, au Québec, on peut estimer entre 30 et 50 jeunes par semaine peuvent subir une commotion cérébrale. Il faut savoir qu'on a à peu près 500 000 jeunes par année qui participent à un sport de contact. Là.
Oui. Donc, certains ne se rendent pas aux urgences.
La majorité,
parce que les symptômes ne sont pas assez apparents, peut-être. C'est quoi des symptômes apparents d'une commotion cérébrale?
C'est ça. Hein, le grand défi dans les commotions cérébrales, c'est les symptômes. Parce qu'un symptôme, c'est ce que je ressens. Et donc, c'est ce que je veux bien vous dire, c'est ce que je veux bien rapporter.
Ouais.
Donc, pour plusieurs jeunes, on est à la fin des séries. J'ai participé, en fait, là, j'étais aux séries de la Coupe Dodge pour Hockey Québec. Donc, c'est les matchs ultimes pour ces jeunes-là qui ont passé là, presque une année en compétition contre d'autres équipes pour atteindre cette Coupe Dodge-là. Donc, j'ai vu des jeunes qui, selon moi, ont été sonnés comme il faut. Puis après ça, ils sont retirés du jeu. Et ce qu'ils affirment aux physiothérapeutes, aux thérapeutes, peu du sport, c'est non, coach, ça va bien. Puis après ça, le jeune part, il marche, il s'en va dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, il manque une passe à peu près 2 mètres.
Mm-hmm.
Donc, les symptômes, ça, c'est ce qu'on veut bien nous rapporter. Les études indiquent qu'un jeune sur deux va mentir sur la présence des symptômes. L'autre chose encore par rapport à ces symptômes, c'est que dans à peu près 20 à 30 des cas, les premiers symptômes d'une commotion cérébrale peuvent apparaître de 24 à 48 heures plus tard.
Ah oui.
Donc, il faut se fier à l'incident, à l'événement. Donc, quand quelqu'un sur le terrain, sur le bord de la glace, est témoin là, d'un accident où qu'on voit un jeune a été mis en échec solide, il a été plaqué, il est rentré dans la bande, il se relève, mais c'est cet événement-là qu'on doit utiliser comme indice et ne pas prendre de risque. On retire le jeune du jeu et on l'observe pour au moins 24 à 48 heures. Même si aucun symptôme n'est rapporté immédiatement.
Mm-hmm. Et là, c'est à ce moment que le rôle des parents devient assez important, notamment si le jeune ne révèle pas toujours ses symptômes. Mm-hmm. 1 sur 2, c'est quand même beaucoup, parce que j'imagine qu'il y a des impacts d'une commotion cérébrale qui serait soit pas diagnostiquée ou mal diagnostiquée pour le développement d'un enfant.
Tout à fait. Et c'est là où on veut en venir maintenant avec les mesures qu'on tente de mettre en place, le plan d'action qui est le rôle pivot du parent. Parce qu'un jeune, évidemment, son rôle dans la vie, hein, essentiel, c'est d'apprendre, c'est d'être sur les bancs d'école, c'est d'être disponible, c'est d'être attentif, c'est de pouvoir mémoriser, c'est de pouvoir réfléchir. Et ce qu'on réalise, c'est que l'information, encore aujourd'hui, ne se rend pas du terrain du samedi matin ou du dimanche après-midi lorsque le jeune a une commotion cérébrale jusqu'au banc d'école le lundi. Ça se rend pas parce que souvent même les parents ne sont pas informés. Et il n'est pas rare de voir en clinique des parents qui arrivent là, en désarroi avec leur jeune qui maintenant a des symptômes chroniques d'une commotion cérébrale, d'une 4e commotion cérébrale. Oui. Et lors de l'entrevue clinique, ils réalisent que le jeune, ben, il en avait eu 1, 2, 3, 4. Donc souvent les parents ne sont pas informés de l'historique de commotion cérébrale. Et donc c'est eux qui vont faire le lien entre l'équipe, l'école, et qui vont pouvoir surveiller les symptômes également.
Mm-hmm. Est-ce que ça existe une petite commotion cérébrale? Parce que souvent, on va dire, est-ce que c'est moyen, une forte? Vous dites non, Dave, Christian?
Non, je suis d'accord avec Dave. Il n'y a pas de petite commotion cérébrale. Le problème, on revient toujours à la même chose, c'est de les détecter, hein? Le plus grave, c'est de laisser un joueur jouer alors qu'il a eu une commotion cérébrale et cette commotion cérébrale-là n'a pas été détectée par ni un ni l'autre. Et les problèmes de détection, ça fait assez longtemps que ça existe. Dave a parlé des parents, c'est une bonne chose, mais il y a toute une éducation à faire aussi au niveau de l'équipe. Je vais vous donner une statistique un peu intéressante. Quand on regarde PBS, l'émission Frontline, a sur son site Internet le décompte des commotions cérébrales diagnostiquées dans toutes les équipes de la NFL par position, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de variabilité entre celles qui ont le plus de commotions détectées et celles qui en ont le moins. Mais sachant que ce sont tous des équipes professionnelles qui jouent tous le même nombre de parties, on devrait en principe se retrouver avec à peu près le même nombre de commotions. Alors, est-ce que l'équipe qui en a le moins en a réellement le moins, ou est-ce que les mécanismes de détection et les processus de retour au jeu sont différents? Alors, si on a ça au niveau de la NFL, alors imaginez-vous ce qui se passe sur la petite équipe d'école qui n'a pas le staff sur les lignes de côté pour faire les diagnostics, prendre les mesures nécessaires pour retirer le jeune du jeu, et ensuite de le remettre dans un processus de retour au jeu, qui est quand même assez complexe. Il y a des équipes de football qui ont des très bons processus où ils sont réévalués et ça prend quelques semaines avant qu'ils reviennent au jeu après une commotion cérébrale. Ils ont plein de tests physiques à faire, des tests cognitifs aussi. fait par le trainer, le thérapeute sportif. Donc, tout ça, ça demeure très variable. Alors, comment on peut mettre tout le fardeau sur le dos des parents, ça devient difficile à ce moment-là parce que le parent, lui, il a aussi un investissement
émotif.
Hein? Si son joueur est le meilleur de l'équipe, et donc à ce moment-là, il voudrait bien qu'il joue.
Ou si son enfant raffole de soccer ou de hockey et que c'est de le punir, de l'empêcher d'aller jouer, expliquer à un enfant, bien sûr, ça peut devenir complexe. On parle de détection, Christian, et bien sûr, j'ai envie de vous parler. Vous êtes chercheur, vous vous intéressez à ces impacts-là. Et avec votre équipe, vous avez mis une façon de détecter plus aisément, plus rapidement les commotions cérébrales en, je pense, observant les mouvements de sportifs.
Oui, en fait, ça vient d'études d'un collaborateur à moi qui s'appelle Bradford McFadden à l'Université Laval, qui a détecté, en mesurant les mouvements humains de jeunes qui avaient des commotions cérébrales, que ces jeunes-là avaient de la difficulté à faire deux tâches en même temps, une tâche cognitive et enfin une tâche de marche en évitant des obstacles. Alors, le système qu'il utilise est assez complexe. Il faut mettre des senseurs sur la personne, etc., etc. Mais dans mon laboratoire, j'ai le même style de système où on n'a pas besoin de mettre de senseurs. Le joueur peut entrer dans l'espace de testing, faire la tâche, et au bout de 5 à 10 minutes, on a toute l'information nécessaire qu'on a de besoin pour répliquer ses résultats. Alors, c'est ce qu'on a fait dans deux saisons complètes avec une équipe et on a effectivement commencé à mettre le doigt sur des paramètres de performance qui sont des signes de commotion cérébrale. Alors là, maintenant, avec l'aide de Dave aussi, on va approfondir nos méthodes de détection. Et à ce moment-là, l'idée, c'est d'avoir un système qui peut être utilisé par tous les joueurs à chaque semaine pour les suivre durant la saison. Mmh. Alors, si jamais il y avait un signal d'alarme selon nos critères de performance, bien là, à ce moment-là, le joueur pourrait être envoyé immédiatement vers un diagnostic plus clinique, faire passer des tests, etc., etc. L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter de perdre la commotion qui n'a pas été détectée.
Oui.
Et ça, chez les jeunes, c'est extrêmement important parce que le syndrome du second impact, il est grave.
C'est-à-dire la deuxième
commotion. La deuxième commotion qui s'empile immédiatement après une première commotion qui est assez importante, qui n'a pas été guérie, ça va laisser des séquelles à long terme.
Je m'intéresse avec vous deux à l'impact des commotions cérébrales sur le cerveau, comment ça peut le modifier. Et j'avais été frappée dans un article paru il y a quelques années, Dave Morissette s'exprimait, lui qui a vécu des commotions cérébrales, ex-joueur de la LNH, et il disait... J'ai peur de vieillir. J'ai peur de voir comment je vais vieillir si je vais devenir Alzheimer. Il disait ça et je me dis, est-ce qu'on peut craindre ces impacts-là sur le cerveau? Je parle de santé mentale, mais de maladies également neurodégénératives.
Oui, de plus en plus d'athlètes professionnels vont rapporter des inquiétudes là, telles que celles rapportées par Dave Morissette, mais aussi des jeunes, parce que depuis les 15 dernières années, un certain nombre d'études qui indiquent que de subir des commotions à répétition a un impact là, à long terme. Il y a un effet cumulatif. En général, on va parler de la règle de 3. Donc, lorsqu'on a subi autour de 3 commotions pour certains, c'est juste une. Pour d'autres, c'est 5. On ne connaît pas ce chiffre-là. Il y a des mécanismes de résilience différents d'une personne à l'autre. Ouais. Mais en général, lorsqu'on a vécu 3 commotions cérébrales, le risque de développer une maladie neurodégénérative qui ressemble un peu à la maladie d'Alzheimer est 10 fois plus élevé chez cette personne que dans la population générale. Chez la personne qui n'a jamais subi de commotion cérébrale. Le risque de développer aussi des troubles affectifs, psycho-affectifs, comme la dépression majeure aussi, est 10 fois plus élevé. Donc, des gens qui vont souffrir de dépression, pas parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ne pratiquent plus leur sport ou leur carrière est terminée, mais parce que les régions frontales du cerveau, qui sont le siège de l'humeur, de la régulation des émotions, qui contrôlent la réactivité aussi des émotions, mais cette partie-là a été effritée, a été endommagée, ce qui fait en sorte que les gens vont avoir un risque plus élevé de souffrir de dépression, de maladies neurodégénératives. Donc, il y a une réelle inquiétude. Ce qu'on estime des études de notre laboratoire, de d'autres laboratoires, c'est que le cerveau d'une personne qui a accumulé plusieurs commotions cérébrales lorsqu'ils ont 45-50 ans ressemble plutôt au cerveau de quelqu'un qui a 65 ou 70 ans.
Ah oui. Mm-hmm. Christian?
En fait, il faut comprendre une chose, hein, c'est que quand il y a un impact à la tête, le cerveau va bouger. Hein? Il y a une biomécanique, là, et ce mouvement du cerveau-là va affecter toutes les structures à l'intérieur, les neurones, hein, les axones, là, c'est les mécanismes là, qui font qu'un neurone va parler à un autre. Et on en a des très longs, hein, il y en a qui partent du devant du cerveau jusqu'à l'arrière, et c'est assez important. Et on sait aussi que quand ces mouvements-là du cerveau arrivent, il y a des neurones qui travaillent très, très fort dans notre cerveau. On pense à certains neurones dans le tronc cérébral qui sont très sensibles à ces déplacements de cerveau-là. Et à ce moment-là, ces neurones-là vont devenir hyperactifs et risquent de mourir. Et il y a des régions qui vont causer des maladies qui ressemblent beaucoup, exemple, à la maladie de Parkinson. Mm-hmm. Donc, on a des neurones dopaminergiques qui utilisent la dopamine comme neurotransmetteur et eux vont être affectés. À ce moment-là, ben, tu peux développer la maladie de Parkinson. Ça, c'est un exemple. On va aussi développer, à cause de la mort de certains neurones, des plaques à l'intérieur du cerveau qui vont ressembler beaucoup à celles qu'on va retrouver dans la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, c'était un des premiers signes cliniques post-mortem que le docteur Omalu a trouvé.
Oui,
ce
oui.
sont ces fameuses encéphalopathies traumatiques chroniques. Ce sont ces plaques, un amalgame de protéines qui se mettent ensemble et qui étouffent un peu les neurones alentour d'eux. Donc ça, ces traces-là, on les retrouve chez des jeunes maintenant qui ont subi des commotions cérébrales, alors qu'en principe, on devrait retrouver ça chez des personnes de 80 ans.
Mm-hmm. Docteur Omalu, incarné par Will Smith dans le film Commotion, sorti de décembre 2000. Qui, au départ, on devrait prendre une pause, là, mais je pense qu'on aura pas le temps, Jean-Sébastien. Ce film, donc, Commotion, qui, au départ, dérangeait beaucoup la NFL, même on risquait de l'empêcher de sortir. Est-ce que les équipes sportives, que ce soit aux États-Unis, ici, peut-être même en Europe, sont encore frileuses, ou les fédérations sportives plutôt, par rapport à ce que l'on retrouve et les recherches en lien avec les commotions cérébrales?
J'avoue que c'est assez variable aujourd'hui. Il faut se rappeler que les travaux du docteur Omalu datent du début des années 2000 et il présentait aussi les résultats de deux cas, hein, des études de cas post-mortem. Donc, c'est important de prendre une certaine réserve par rapport à ces résultats. Par contre, depuis ce temps-là, évidemment, il y a eu plus d'une centaine de cas similaires qui ont été documentés avec une grande rigueur, dont les travaux de Dr. McKee à Boston et tout cela. Maintenant, c'est quelque chose de moins anecdotique. Et puis, bon, la Ligue nationale de football, dans les dernières années, a une bien plus grande ouverture aussi. Je crois aussi que de plus en plus les ligues professionnelles en Amérique du Nord ont une plus grande ouverture. Pourquoi? Bon, probablement à cause des risques de poursuite, hein, qui sont bien réels dans le cas de la Ligue nationale de football, Ligue nationale de hockey aussi dans une situation plus délicate. Cela dit, en Europe, en Asie, en Australie, c'est encore le silence radio sur les commotions cérébrales. J'ai même participé à une émission en Australie sur cela parce qu'il n'y avait pas d'experts là-bas sur les commotions cérébrales. Quand on tente d'apporter de l'information en Europe aussi aux associations, aux fédérations de hockey, de football international, donc de soccer également, là on sent vraiment un déni beaucoup plus grand même qu'en Amérique du Nord. Mais malgré ce qui se fait au niveau professionnel, ce qui m'inquiète surtout, c'est ce qui se fait pas chez les jeunes.
Oui.
Et là, je crois qu'il y a un écart, mais très important. Il faut savoir que chaque équipe professionnelle, qu'on parle du hockey ou du football en Amérique du Nord, a un ou même des médecins sportifs qui sont présents presque ben, pour tous les matchs et pour certaines pratiques. Alors que pour les jeunes au Québec et pour le reste de l'Amérique du Nord, mais qui forment 98 % des joueurs, des gens qui participent à ces sports-là, ben, ils n'ont aucun professionnel. Ils n'ont pas de thérapeute du sport, de physiothérapeute, de gens qui viennent encadrer, soutenir, détecter les jeunes.
Un des problèmes majeurs aussi, c'est que quand quelqu'un arrive au niveau universitaire ou professionnel, il a développé des techniques hein, pour plaquer, pour se protéger, etc., etc. Alors que quand on se retrouve dans les petites ligues, hein, les très jeunes, ils n'ont pas ces techniques-là. Non seulement ça, mais en plus de ça, ils n'ont pas nécessairement la musculature développée. Ouais. Alors, on regarde ces bouts de choux qui courent, les piouis sur le terrain. Le casque est déjà énorme, il est beaucoup trop lourd pour leur musculature du cou. Alors, juste le casque lui-même, une fois qu'il est parti, il n'est pas arrêtable. Donc, ils vont se frapper la tête tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables d'absorber une partie d'énergie au niveau du cou. Oui. Ça, c'est un problème. L'autre chose aussi, c'est, comme j'ai dit, au niveau de la technique. Alors, les proportions de commotion cérébrale sont très élevées au niveau des jeunes. En plus de ça, on pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas détectés. Donc, en plus d'avoir pas de médecin sur les lignes de côté, les techniques sont moins bonnes, ils sont plus exposés à des blessures et les écarts aussi au niveau du poids des joueurs est énorme. Alors, on prend un enfant de 12 ans, vous en alignez 5 un à côté de l'autre, ils peuvent avoir des variabilités énormes parce qu'ils sont en plein développement de coordination motrice, physique au niveau musculo-squelettique. Tout ça, c'est énormément variable, mais ils vont jouer dans la même ligue. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même âge.
Ouais, ouais, ouais.
Alors ça, ça aussi, c'est un problème. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui font que présentement, les jeunes sont très à risque des commotions cérébrales et ça, ça ne changera pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une refonte de notre façon de faire. Est-ce qu'on devrait permettre à faire des contacts avant l'âge de 12 ans, 13 ans? Moi, je pense que non. Ils devraient jouer au flag football. Apprenez les jeux, apprenez les positionnements, apprenez les techniques. Et à un moment donné, le cerveau va se développer assez pour être un peu plus résilient. Et là, ça sera un libre choix. Mais les très jeunes, il faudrait éviter les contacts parce qu'ils n'ont pas la musculature pour survivre à ces contacts-là. Ils n'ont pas les techniques pour se protéger. Et ça les met à risque d'une deuxième, d'une troisième commotion cérébrale. Très jeunes, au moment où le cerveau se développe. Hein, le cerveau, il se développe jusqu'à l'âge de 24 ans, là. Il y a encore les connexions après ça, là, ils se défont, mais toutes les connexions majeures là, du cerveau, ça va jusqu'à 24 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer, si vous avez plein de commotions cérébrales avant l'âge de 24 ans, les risques que ça peut causer.
On protège nos futurs cerveaux, sont quand même les citoyens de demain. Le temps file à vive allure. On parle de refonte, Christian Duval, Dave Ellenberg. Vous avez participé à un plan d'action lancé, mis de l'avant, je pense, décembre dernier. Vous avez été très impliqué. De quoi on parlait? Qu'est-ce qu'abordait ce plan d'action en lien avec les commotions cérébrales?
Mais en amont au plan d'action, il y a un groupe de travail qui a été mis en place là, par le ministère de l'Éducation. Et puis, ce groupe de travail a remis un rapport avec une série de recommandations pour ce qui est de la gestion des commotions cérébrales, de la prévention et le suivi. Qui inclut également un protocole de gestion des commotions cérébrales.
Oui.
Alors, le ministre, en décembre dernier, a extrait un plan d'action de ce rapport-là où on exige des équipes de retirer un athlète immédiatement lorsqu'on soupçonne que l'athlète a eu une commotion cérébrale, que l'athlète soit vu immédiatement également et qu'il le puisse seulement retourner au jeu après avoir, lorsqu'il a obtenu l'accord d'un médecin, après avoir fait un retour complet à l'école. Il y a ces recommandations-là, il y a à peu près une quinzaine d'autres. Et s'accompagne à cela une table de concertation à laquelle je fais partie, que je préside, et l'objectif de cette table de concertation-là, c'est de déterminer comment concrètement sur le terrain, est-ce que les équipes sportives, les milieux scolaires peuvent mettre en place le plan d'action et le protocole de gestion des commotions cérébrales, c'est-à-dire quels sont les facilitateurs, quels sont les obstacles également. Et ce qu'on réalise, un des éléments critiques de la mise en place de cette gestion saine des commotions cérébrales, c'est la communication et la concertation dont on parlait plus tôt et le rôle pivot du parent, parce que souvent, c'est l'information qu'on perd aussi. Et également, un autre élément, c'est l'identification au moment de l'impact. Donc, qui passe par la sensibilisation, par l'éducation et ultimement des moyens pour pouvoir faciliter cette identification-là.
Et ce que je retiens de votre part, Christian Duval, c'est l'apprentissage du sport dans toutes ses techniques, dans toutes ses facettes, en bas âge pour après, bon, notamment donner le temps de solidifier tout ce qui est musculature, mais aussi d'apprendre ces techniques qui sont bien précieuses, autant aux jeunes sportifs qu'aux sportifs professionnels. En terminant, messieurs, fantasme. Si vous étiez un directeur général d'une équipe ou d'une fédération sportive, quels seraient les changements majeurs que vous aimeriez apporter? Premièrement, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer maintenant?
En fait, c'est vrai que là, on va parler de fantasme. Une des premières choses que moi, je ferais, surtout pour les jeunes en bas âge qui décident de jouer au football, exemple, on va prendre l'exemple du football, ça serait d'enlever l'idée que l'âge soit le facteur primaire pour la sélection des équipes et que aussi on enlève les disparités au niveau du poids et de la grandeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es gros et grand que tu dois être joueur de ligne. En fait, quand tu es jeune dans l'apprentissage, tu devrais toucher à toutes les positions et tous les amis avec qui tu joues devrait avoir à peu près la même grandeur et le même poids que toi. Bien, c'est sûr qu'il y aurait une limite, là, s'il y a un petit garçon de 16 ans, on s'entend. Mais l'idée, ça serait que les contacts, parce que c'est physique, hein? Un gros qui frappe un petit, le petit va se faire mal, mm-hmm. le gros va se faire moins mal. Donc ça serait peut-être une méthode. Puis l'autre chose aussi, c'est d'enlever les contacts et de laisser tout simplement jouer au flag football, l'exemple. Ça pourrait être un exemple pour les tout-petits.
Dave, rapidement, il reste une minute et demie. Christian avait beaucoup de choses à dire.
Je crois que chaque équipe doit avoir des observateurs, comme on a maintenant à la Ligue nationale de football, Ligue nationale de hockey, des gens qui sont là dans les estrades, qui observent et qui peuvent identifier des impacts potentiels. Et c'est ces gens-là qui vont retirer les jeunes de jeu. C'est ces gens-là qui auront l'autorité, pas les entraîneurs, pas les parents qui sont en conflit d'intérêts, qui ont d'autres émotifs, enjeux. Mais surtout de rappeler aux gens qu'on n'est pas ici pour leur faire peur. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête également, ça fait réfléchir, mais on veut que ce soit pratiqué de façon sécuritaire.
Vous nous rappelez le titre de votre livre, Dave?
Les commotions cérébrales dans le sport, une épidémie silencieuse chez les éditions Québec Livre.
On le mettra sur notre site web. Messieurs, Christian Duval, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Dave Ellenberg, neuropsychologue, clinicien, auteur de ce livre qu'on mettra sur notre site et professeur au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Messieurs, merci. Ça a été fort outillant, fort apprécié. Un grand plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Merci.
Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, qui n'a pas travaillé très fort aujourd'hui. On avait tant de choses à dire. On n'est même pas allé en pause. Merci, Jean-Sébastien. Marianne Paquette au micro. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Bye-bye.